Vous écoutez RTL. RTL.
Jusqu'à 22h.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bonsoir à tous et bienvenue. Comment ça va, Sidonie ?
Très bien, Thomas. Je suis ravie d'entrer dans ce cabinet de curiosité pour 2 heures d'histoire. On va découvrir des histoires extraordinaires et des destins hors normes aussi.
Oui, comme par exemple celui d'un faussaire de génie. Il s'appelle Guy Ribe et pendant 30 ans, ses tableaux ont trompé les acheteurs et surtout les experts du marché de l'art. On vous racontera son histoire.
Et puis on va monter à bord d'un petit avion, celui de Clémentine Bacry et Adrien Normier. On les avait déjà reçus dans la curiosité.
Ils sont trop sympas.
Ils sont hyper sympas, ce petit couple. Ils sont partis proposer leurs services, leurs photos aériennes à des scientifiques du monde entier. Première étape, le Brésil pour leur grande mission, des ailes pour la science. On y sera.
Tout de suite, l'histoire du palais de l'Élysée, vous l'avez compris, et des amours de ses locataires.
RTL.
Le palais a sa force magique, celle de l'histoire, grande ou petite. Car des fantômes illustrent le hante de Napoléon à De Gaulle, mais
la curiosité est un vilain défaut.
Vous savez bien qu'un président avait sa maîtresse dans la rue voisine, rue du Cirque.
Ah bon ?
C'était Napoléon III, dit le petit qui, dans cette escapade, fut imité plus tard par un autre. Vous n'ignorez pas non plus que Félix Faure y mourut dans les bras d'une demi-mondaine.
Jusqu'à 22h.
Quand on va ubériser le pouvoir, peut-être, après tout, RTL va bien déménager, pourquoi pas un jour l'Élysée.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Comme Nicolas Domenac le rappelait cette semaine dans la matinale.
Je veux bien être première dame de France. Allez, d'accord, mais de la radio.
Pour déménager.
Oui,
j'ai bien compris. En tout cas, certains proposent de vendre l'Élysée, de déménager son prestigieux locataire, ce palais qui symbolise le pouvoir en France depuis plus de 2 siècles. Et comme le pouvoir est, paraît-il, aphrodisiaque, ce sont les histoires érotiques de l'Élysée que l'on vous raconte ce soir. Bonsoir, Joëlle Chevet.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue, vous êtes historienne, habituée du studio de la curiosité. On est très ravis de vous retrouver. Vous publiez une série d'articles sur ce thème dans le magazine Historia en partenariat avec RTL. Tiens, on commence par une anecdote que dit le président Gaston Doumergue. On est le 13 juin 1931 quand il quitte l'Élysée.
Alors oui, en effet, quand il quitte l'Élysée, quelques temps après, en s'adressant à un de ses amis, il lui dit, enfin je cite de mémoire, hein, « Vous n'imaginez pas ce que j'ai pu vivre en étant à l'Élysée. J'étais prisonnier au secret. » Et ça n'était vraiment pas drôle.
Il emploie le mot prison.
Prisonnier au secret. Et c'est très étonnant de voir que jusqu'à aujourd'hui, la majorité des présidents et leurs épouses qui sont entrés à l'Élysée ont eu l'impression chaque fois d'entrer dans une prison. Mmh. Je crois qu'il n'y a guère que Bernadette Chirac qui avait déjà évolué à l'hôtel de Paris, qui était très heureuse, elle, au contraire, de se retrouver... dans ce cadre-là.
Dans ce palais.
Joëlle Chevet, l'Élysée, c'est le lieu officiel du pouvoir. Depuis quand ? Il y a eu une éclipse aussi hein, pendant 2 siècles. Hein.
Alors, officiellement, en tout cas dans les textes, c'est depuis 1879 que le palais est vraiment la résidence officielle des présidents de la République. Pour autant, il est affecté au premier président de la République en 1848, qui est Louis-Napoléon. Et l'Assemblée, donc, lui affecte, après son élection, comme résidence, le palais de l'Élysée. Qui est alors d'ailleurs en très mauvais état et voilà.
Alors on va raconter les histoires, l'histoire des locataires ou des propriétaires précédents. Il y a eu pas mal de courtisanes qui ont laissé leurs traces. Et du coup, Sidonie, il y a une citation du général de Gaulle. Qu'est-ce qu'il disait en entrant à l'Élysée ?
Ah, c'est un palais de la main gauche, palais à femmes.
C'est vrai qu'il n'était pas très content d'y entrer, lui non plus.
Non, et je pense qu'il il pensait surtout à la Pompadour. Hein. Le problème de l'Élysée, c'est d'avoir appartenu à la Pompadour. Donc, la putain du roi.
Louis XV, c'est ça ?
Louis XV, bien sûr. Et donc, je crois qu'il y a cette espèce de macule.
Le sceau de l'infamie, c'est ça ?
À l'Élysée. Exactement. Mmh. Alors même qu'on aura l'occasion d'y revenir, la Pompadour a mené une vie très sage à l'hôtel d'Evreux, puisqu'elle n'est plus que la maîtresse platonique de Louis XV à ce moment-là.
À cette époque-là. Alors, on va remonter aux origines. Qui construit ce palais qui n'est pas encore un palais, qui est un hôtel particulier ? C'est à quelle époque ?
Alors, c'est au XVIIIe siècle, tout à fait au début du XVIIIe siècle. Louis-Henri de la Tour d'Auvergne, qui est le petit-neveu du grand maréchal de Turenne, donc qui appartient à la famille de Bouillon, et qui va faire construire donc cet hôtel. Un petit peu, c'est pas un pari, mais c'est une demande du régent, parce que l'homme en question est un militaire qui a fait une carrière tout à fait modeste, qui est plutôt avare, mais ambitieux. Et le régent, à qui il avait demandé une faveur, lui dit « Bah écoutez, je vous accorderai ce que vous me demandez à condition que vous construisiez un hôtel qui soit un peu digne de votre famille, digne de votre rang et de votre statut. » Donc, le comte d'Evreux est donc obligé de construire cet hôtel qu'il va faire construire. Donc, on va y revenir près des Champs-Élysées.
Donc, ça ne s'invente pas parce que cet hôtel particulier est construit sur un marais qui a un drôle de nom.
Oui, alors là, oui, moi ça m'a fait rire parce qu'en effet, ça s'appelle le marais des gourdes. Ça avait un autre sens. En fait, ce quartier de Paris, qui était encore très campagnard, les Champs-Élysées, il y avait énormément de zones de maraîchage et on y faisait pousser en particulier des cucurbitacées.
Ah, c'est drôle.
Donc en l'occurrence, des gourdes, comme on disait à l'époque.
Mais ça ressemble à quoi le quartier des Champs-Élysées à l'époque ?
Alors le quartier des Champs-Élysées, c'est comme je vous le dis déjà un petit peu la campagne. Oui. On est au bout de ce qu'on appelait le Grand Cours qui avait été construit sous Louis XIV. Et là, il y avait une zone donc, qui était occupée, comme je vous le dis, par des jardins, par des fermes, mais aussi par quelques grands hôtels qui commençaient à se construire dans ces lieux qui étaient quand même plus paisibles que l'intérieur de Paris.
Est-ce qu'il y a déjà une femme qui rôde autour de cette histoire, autour du comte d'Evreux, puisqu'on parle du palais de l'Élysée, palais érotique? Il est marié, il a une maîtresse.
Alors le comte d'Evreux, il a épousé une des plus belles héritières de Paris, qui est la petite Marie-Anne Crozat, qu'il épouse à l'âge de 12 ans. Donc évidemment, le mariage n'est pas consommé, elle retourne vivre dans sa belle famille, donc chez les Bouillons. Et lui, pendant ce temps, entretient fastueusement un certain nombre de maîtresses, dont la duchesse de Lesdiguières. Et ce sera elle qui fera les honneurs de l'hôtel d'Evreux quand il sera inauguré en décembre 1720.
À le jour de l'inauguration, la femme du comte d'Evreux n'est même pas présente, c'est ça ?
Si, elle y est conviée, oui. Parce que son père a tellement participé financièrement,
au financement,
en particulier avec sa dot, à la construction de l'hôtel en question, qu'en effet, la petite Marie-Anne Crozat est conviée, mais on lui fait comprendre quand même de ne pas trop s'attarder. C'est une femme charmante, très cultivée, mais qui évidemment ne convient pas au comte d'Evreux, qui mène une vie galante, libertine, déjà dans ces lieux.
À la mort du comte d'Evreux en 1753, il meurt sans héritier légitime. C'est Madame de Pompadour qui rachète cet hôtel particulier. Pour le peuple de Paris, vous nous l'avez dit tout à l'heure, Joël Chevet, c'est la putain du roi qui vit dans cet hôtel, le futur palais de l'Élysée, qui portera longtemps la marque de cette indignité. A tout de suite sur RTL.
Dans un instant, retour de la curiosité.
Vous écoutez RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Louis XV aurait-il dû passer son chemin en ce jour de 1744 ? Ne tombe-t-il pas dans un piège lorsqu'il rencontre Madame d'Étiolle, née Jeanne-Antoinette Poisson et future marquise de Pompadour ?
RTL.
C'est elle qui a organisé les plaisirs sexuels du roi.
Disons que c'était une sorte de prostitution de haut luxe organisée.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
C'est l'histoire du palais de l'Élysée, côté cœur et côté sexe, que l'on vous raconte ce soir dans la curiosité sur RTL avec l'historienne Joëlle Chevet. C'est en partenariat avec Historia Magazine. On raconte l'histoire de cette madame de Pompadour, la putain du roi, la favorite de Louis XV, qui a acheté le futur palais de l'Élysée, qui s'appelle à l'époque l'hôtel d'Evreux. Elle cherchait en fait un endroit calme pour elle. Elle décide de le faire décorer très richement.
Oui.
D'en faire un lieu de haut luxe, c'est ça ?
Voilà, elle souhaitait un lieu où, en cas de disgrâce, elle pourrait se retrouver, qui serait pas trop loin de Paris, et pas trop loin de sa fille aussi, qui est dans un couvent tout proche de la rue du Faubourg-Saint-Honoré. Donc elle s'installe là, au calme, et un calme qu'elle ne va pas trouver, parce que
c'est
l'hôtel...
Bruyant. Les voisins sont bruyants.
C'est bruyant, oui, les voisins sont bruyants, c'est-à-dire c'est surtout les lazzi du peuple de Paris et qui lui rendent en effet cet hôtel difficile à habiter. À plusieurs occasions, il est placardé, on dirait aujourd'hui qu'il est tagué, hein,
ouais.
Avec la putain du roi, d'autant qu'elle essaye aussi de s'attribuer un petit peu des terrains qui sont autour pour planter son potager, ça plaît pas du tout. Au moment où on va inaugurer la place Louis XV avec la statue de Louis XV en 1763, pareil, le cortège s'arrête devant l'hôtel et elle est abondamment insultée. Donc, ça n'est pas du tout le havre de sérénité qu'elle prévoyait au départ.
Oui.
pardon, au demeurant, elle vit en effet dans un luxe inouï, comme vous disiez tout à l'heure. L'hôtel a été entièrement réaménagé avec des très belles peintures, de bouchers, beaucoup de scènes galantes dans un hôtel où les galanteries sont peu nombreuses.
Elle y organisait les plaisirs du roi au futur hôtel, palais de l'Élysée, dans cet hôtel
absolument
des Vreux. Non,
pas.
Non, elle vivait là,
pas.
Mais elle organisait
c'est
les plaisirs du roi.
C'est une demeure qui lui est particulière.
D'accord.
Les fameux plaisirs du roi, c'est au parc Auxerre, où évidemment elle choisit là des jeunes filles, en effet, comme maîtresse.
Le propriétaire suivant, on avance dans le temps de ce futur palais de l'Élysée, il est veuf et banquier, il s'appelle Nicolas Beaujon, lui aussi redécore avec faste, notamment sa chambre dans Historia Magazine, vous nous décrivez cette chambre, l'alcôve notamment, elle ressemble à quoi?
Oui, c'est un personnage étonnant ce Nicolas Beaujon, parce qu'en même temps c'est un homme très cultivé, un mécène, qui a une collection de peintures extraordinaire, et qui dans ses appartements privés de l'Élysée va en effet s'aménager, je dirais, une véritable bonbonnière, avec glace en effet au-dessus de l'alcôve,
les coquets,
oui, petit, peut-être pour je ne sais pas, je vous laisse imaginer. Et par ailleurs une salle de bain qui paraît très très féminine et que nous décrit la peintre Madame Vigée Lebrun, qui va faire son portrait sur le tas et qui a même demandé à utiliser sa salle de bain, ce qui est quand même très drôle. Mais alors là, elle nous le décrit dans un état absolument épouvantable, donc on a du mal à imaginer les galipettes qu'il a pu faire, parce qu'à l'époque, il est en fauteuil roulant, il est à moitié sourd, à moitié aveugle, mais il continue à régaler tout Paris, et en particulier une cohorte de jolies femmes qui l'aident à s'endormir le soir. On les appelait ses berceuses.
C'est que joli. C'est joliment dit.
En 1786, c'est Louis XVI qui rachète l'hôtel et le revend à sa cousine Bathilde de Bourbon, je dis bien Bathilde. Elle fait transformer le parc du futur palais de l'Élysée.
Voilà, alors là encore, on prend un grand architecte, c'était Paris en l'occurrence, et on transforme en effet surtout le parc qu'elle fait transformer, parce qu'elle a épousé le fils du prince de Condé, donc elle connaît très bien Chantilly, et elle voudrait retrouver un cadre un petit peu semblable à celui de Chantilly, dont elle est exclue parce que son mari ne veut plus d'elle. Donc elle s'installe à l'Élysée après avoir hérité d'une très grosse fortune, c'est la fille du duc d'Orléans, et donc elle est très riche, et donc elle peut aménager ça à sa façon,
c'est
à sa façon très luxueuse.
Cette époque, vous dites l'Élysée, c'est à cette époque que le palais prend ce nom, l'Élysée.
Alors, disons que le quartier avait déjà pris du grand cours avait déjà pris le nom d'Élysée. Élysée parce que les gens venaient pour s'y reposer. Alors ça évoquait évidemment les Champs-Élysées, puisqu'on était aussi dans un cadre champêtre. Voilà. Et à ce moment-là, le palais va prendre le nom d'Élysée Bourbon. Mais par contre, l'avenue elle-même ne prendra le nom de Champs-Élysées que sous la Révolution.
Et justement, sous la Révolution, Bathilde Bourbon est rebaptisée Citoyenne Vérité. Elle deviendra ensuite une héroïne de la Restauration.
Oui, alors c'est une femme vraiment étonnante, parce qu'elle est très pieuse, très dévote, et en même temps, elle participe vraiment aux idées de la Révolution. Alors pas du tout comme son frère, le fameux Philippe Égalité, qui a voté quand même la mort de Louis XVI. Je pense qu'elle est plus sincère, parce qu'elle n'a pas d'ambition politique. Elle est en plus en couple avec un philosophe qui a des idées très humanitaires, mais surtout qui pratique l'occultisme. Et l'hôtel va devenir un haut lieu de pratiques occultes. On est à l'époque de Cagliostro, de Mesmer. Donc vous imaginez un petit peu le cadre et tous les illuminés qui se retrouvent là.
Les mages, les magnétiseurs.
On prend des bains dans les baguets pour se magnétiser. On fait des séances d'hypnose, etc. Donc ça devient un lieu vraiment très très étonnant. On y reçoit des prophètes et des prophétesses, dont la fameuse Suzette Labrousse, qui avait prévu la résurrection du dauphin, de Robespierre et autres.
C'est sous l'Empire que l'Élysée deviendra mythique, quand Caroline, la sœur de l'empereur, et Joachim Murat, l'un de ses maréchaux, rachètent l'hôtel. On vous fait visiter dans un instant sur RTL.
Soyez fiers d'être curieux.
Vous écoutez RTL.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
L'Élysée, c'est le cœur du pouvoir républicain depuis deux siècles et de Madame de Pompadour à nos jours. C'est aussi un palais des plaisirs. Les histoires érotiques de l'Élysée, c'est ce que l'on vous raconte sur RTL avec l'historienne Joëlle Chevet. C'est en partenariat avec le magazine Historia. Allez, on continue d'avancer dans le temps, Joëlle Chevet. Nous sommes le 1er décembre 1806. Qui s'installe dans le palais Élysée-Bourbon?
Alors, c'est un couple fort connu, puisqu'il s'agit donc de la sœur de Napoléon, Caroline, qui a épousé Murat, donc Joachim Murat, et qui vont donc s'installer là pour peu de temps, mais qui par contre vont animer ce palais, et surtout Caroline, de façon, là pour le coup, extrêmement érotique, je pense qu'on peut utiliser le terme.
Caroline, c'est vraiment elle qui va régner sur la maison?
Oui, d'autant que Murat, lui, suit évidemment Napoléon dans ses campagnes.
Il est maréchal d'Empire.
C'est elle la maîtresse des lieux, et elle va décorer elle aussi somptueusement l'Élysée, mais en faire aussi un lieu stratégique pour ses ambitions. Elle rêve évidemment d'un trône. Une de ses sœurs est déjà duchesse. Hortense de Beauharnais est devenue reine de Hollande. Caroline n'a toujours rien.
Caroline Murat, c'est une belle femme, c'est la sœur de Napoléon.
Elle était très séduisante, ouais. Beaucoup de charme, très vive. Le peintre Girard disait « c'est un paquet de roses dans du lait », donc vous imaginez.
C'est érotique. C'est l'une des reines de Paris, c'est ça, ouais.
C'est vraiment une des reines de Paris, avec Joséphine et Hortense, bien sûr. Et puis sa sœur aussi, Pauline, qui est la beauté, la grande beauté de la famille. Et donc elle va utiliser quand même ce palais pour y recevoir de nombreux amants, y faire des fêtes extraordinaires, et surtout y recevoir tous ceux qui vont pouvoir servir ses ambitions politiques. Alors ça va être aussi bien Fouché, avec elle a eu peut-être une aventure amoureuse, Talleyrand, qui par contre ne cédera pas à ses avances.
Qu'est-ce qu'il dit Talleyrand de Metternich? Qu'est-ce qu'il dit Talleyrand
de... une tête de Machiavel sur des épaules de Vénus.
En parlant de Caroline.
En parlant de Caroline,
c'est
oui.
Très joli.
Il avait bien perçu et son intelligence et ses ambitions.
C'est la tête pensante du couple, c'est-à-dire
oui,
que Murat a fait la guerre et elle,
tout à fait.
Murat, elle réfléchit,
fait la guerre,
elle
c'est ambitionne. Un Gascon qui passe son temps à faire des gaffes et elle lui dit « Tu n'es qu'une grosse bête, grâce à moi tu seras roi, ne t'inquiète pas ».
Caroline Murat va jouer aussi, j'imagine, les entremetteuses pour Napoléon.
Alors oui, c'est là où c'est assez curieux, parce que Napoléon, par ailleurs, impose un protocole et exige beaucoup de décence de la part de ses sœurs. Mais pour autant, elle lui permet de recevoir à l'Élysée un certain nombre de maîtresses. Et donc, elle joue en effet là le rôle d'entremetteuse, parce qu'elle est bien contente, je dirais, de faire la nique à Joséphine, qu'elle déteste. Et donc, ça lui permet de prendre certaines revanches, en particulier quand une des maîtresses de Napoléon aura un fils. Là sera prouvé que la stérilité du couple est bien due à Joséphine.
Ah, parce que Napoléon n'arrivait pas à avoir d'enfant avec Joséphine. Et donc, c'est quoi? C'est l'une des maîtresses de Napoléon qui s'appelle, je crois, Éléonore de Noël de la Plaigne, c'est ça?
Éléonore de Noël de la Plaigne.
Qui s'ennuie avec Napoléon.
Qui aura un effet. Elle a été la maîtresse de Murat également. Ouais. Et elle aura un fils de Napoléon. Mmh. Napoléon qu'elle n'apprécie pas d'ailleurs spécialement. Elle s'ennuie profondément avec lui. Elle retarde régulièrement les aiguilles de l'horloge quand ils passent un peu de temps ensemble pour qu'ils partent plus vite.
Et elle tombe enceinte pourtant.
Et il lui est très reconnaissant par contre qu'elle lui donne un fils et qu'elle le rassure donc sur sa fécondité.
Elle compte les animaux du papier peint.
Il y avait 12,
si vous voyez ce
12
que je veux
000
dire.
Moutons.
Caroline Murat, la sœur de Napoléon, qui alimente aussi les messes basses du tout Paris impérial en trompant allègrement son mari. Elle aimait bien les militaires, ça c'est une chose, et notamment le gouverneur de Paris, le général Junot. Ils vont quoi? Vous dites, on ne peut pas dire qu'il s'affiche, mais pas loin, c'est ça?
Ah, il s'affiche carrément,
ouais,
puisque les voitures de Junot stationnent dans la cour de l'Élysée, vu et au su de tous. L'histoire revient évidemment aux yeux de Napoléon, qui à ce moment-là est en train de conclure la paix de Tilsit, et qui revient furieux en juillet 1808 pour faire la leçon et à Caroline et à Junot, qui est exilé quelque temps avant de partir en Espagne. Et donc, l'affaire se règle à peu près. Reste que c'est le grand scandale de l'époque qui fait jaser.
Et le mari, alors, il va dire quoi, Murat?
Oh ben Murat, lui, il se console assez aisément, mais il pourfend un peu tous ceux qui approchent de trop près sa femme. Mais il est également lui-même très infidèle et très volage.
Caroline va devenir reine?
Caroline devient reine, en effet, de Naples en 1808. Et là s'arrête une des pages, évidemment, les plus torrides de la vie de l'Élysée. Mmh.
D'un empereur à l'autre, on vous raconte l'histoire de Napoléon III dans un instant. Sa maîtresse était comédienne et logeait rue du Cirque. Ça ne s'invente pas. Tout de suite sur RTL.
Vous écoutez RTL.
22h, Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
La piste aux étoiles. Un chef de l'État surpris en galante compagnie, rue du Cirque, tout près de l'Élysée. Ça vous rappelle quelque chose ? Pourtant, il ne s'agit pas de François Hollande en 2014, mais bien de Napoléon III. Nous sommes avec l'historienne. J'ai dit une bêtise, Joël Chevet.
Mais non, je voulais juste préciser, il ne s'agit pas de Napoléon III, mais de Louis-Napoléon. Ah. Il n'est pas encore empereur.
Oui, il n'est pas encore empereur.
Oui, bien sûr,
il va le devenir.
Bien sûr. Un peu, petit anachronisme des curieux. Nous sommes avec vous, Joël Chevet, pardon, vous êtes historienne et vous publiez un dossier passionnant dans le magazine Historia. C'est en partenariat avec RTL et vous racontez justement l'histoire érotique de l'Élysée. Alors, les similitudes entre François Hollande et Louis-Napoléon Bonaparte ne s'arrêtent pas là. Quel métier faisait Miss Howard, la maîtresse de Louis-Napoléon?
Alors, Miss Howard est au départ, Harriet Howard est au départ, je dirais, une courtisane. Et elle a, grâce à un de ses entreteneurs, hérité d'une grosse fortune. Et elle a toujours rêvé de faire du théâtre. C'est une médiocre actrice. Donc je ne ferai pas de comparaison dans ce domaine.
Ah non.
Ça serait injuste.
Mais voilà. Elle est actrice.
Et Louis-Napoléon l'a rencontrée en Angleterre au moment où il était exilé après son évasion du fort du Ham. Donc il la ramène d'Angleterre dans ses bagages. Et il est élu président de la République, donc en 1848.
Oui, en décembre 1848, il n'est pas encore empereur. Hein. Il vient d'être élu président de la Deuxième République. Ouais. Et alors, c'est drôle, parce que l'Élysée, c'est aussi un lieu de souvenir pour lui. Pourquoi ?
Ah ben, c'est un lieu de souvenir, parce que, évidemment, c'est là où Napoléon a passé quand même quelque temps pendant les 100 jours, et surtout où il a fait sa deuxième abdication dans le fameux Salon d'Argent, où il y a encore le petit bureau sur lequel son frère a écrit son abdication.
Alors, dans quel état est le palais quand Louis-Napoléon y entre, le futur palais?
Il est dans un triste état, puisqu'il a été évidemment plus ou moins abandonné. Il est donc dans un triste état. C'est même Louis-Napoléon qui va trouver dans un placard une petite publicité qui disait que sous le directoire, on pouvait louer des chambres privées. Donc, c'était un lieu de plaisir et de divertissement sous le directoire et le consulat. Et donc, il ne va pas s'y installer officiellement. Il va vivre chez sa maîtresse, donc Harriet Howard, qui habite un hôtel particulier 14 rue du Cirque. Mmh. Et par contre, le palais est aménagé, je dirais, assez sobrement à ce moment-là, dans un style un peu anglais. Et c'est la princesse Mathilde, sa cousine, qui fait les honneurs de l'Élysée quand on y donne des réceptions. Harriet Howard ne rentre pas à l'Élysée.
Oui, ça c'est une dimension qui est passionnante. Et également, si on devait décrire cette maîtresse officielle ou cette première dame qui ne dit pas son nom, qui est un peu cachée, Miss Harriet Howard, elle est riche, elle est belle, qu'est-ce que vous diriez d'elle ?
Elle est extrêmement belle, très riche. Elle a financé une partie de la campagne électorale, comme elle financera une partie du coup d'État en 1851. Mmh. Donc, elle montre là l'attachement qu'elle a, mais aussi l'ambition. Je pense qu'elle a réellement rêvé d'être, entre guillemets, la première dame. Mmh. Napoléon a d'autres ambitions, bien qu'il soit, je pense, foncièrement amoureux d'elle. Ça sera son grand amour, certainement, avec sa mère Hortense. Dès que le rêve impérial s'empare vraiment de lui, il n'est pas question qu'il épouse Harriet Howard. Mmh. Et donc là, la tragédie commence pour elle.
Alors, Harriet Howard, qui ne loge pas l'Élysée, vous nous l'avez expliqué, Joël Chevet. Donc, l'Élysée devient la garçonnière du futur empereur, c'est ça ? Il y reçoit de nombreuses maîtresses ?
Oui, il y reçoit de nombreuses maîtresses, essentiellement d'ailleurs des courtisanes. Ça sera la grande actrice Rachel, ça sera Alice Ozy, dont tout le monde connaît la très belle académie, puisque Chassériau, dont elle était la maîtresse, a fait son portrait en muse endormie auprès d'une source. Donc, il y reçoit pour une heure. Il a des mœurs érotiques très particulières. De toute façon, le futur Napoléon III, c'est un expéditif. Et un certain nombre de ses maîtresses en titre, je pense à Cora Pearl plus tard, raconte il prend pas le temps d'enlever ses bottes.
Ah oui, à ce point-là.
Donc, l'Élysée devient quand même un lieu érotique, on va dire, un lieu de réjouissance, même si elles sont brèves. C'est aussi un lieu de fête. Des fêtes
fastueuses. C'est un lieu de fête puisque il y donne des fêtes qui là par contre sont présidées par la princesse Mathilde et non pas par Eugénie, la future impératrice, puisqu'à partir de ce moment-là, la cour sera installée aux Tuileries.
Miss Award est riche, vous nous l'avez dit, et là il y a une forme d'injustice de l'histoire quand elle apparaît à l'opéra très bellement, très bien habillée, couverte de diamants. Comment réagit le public?
Ah ben, le public réagit évidemment comme il pourrait réagir par rapport à Madame de Pompadour ou Madame de Montespan. C'est pour le public, évidemment, Louis-Napoléon qui entretient sa maîtresse. Et qui
alors que c'est l'inverse.
Alors que c'est tout à fait l'inverse. C'est là où est aussi une ironie un peu tragique de l'histoire. Et on ne veut plus de ces courtisanes, ou en tout cas de ces maîtresses officielles, de ces favorites, qui symbolisent l'Ancien Régime dans une République toute neuve.
Pourquoi Louis-Napoléon ne va pas épouser Harriet ? Miss Harriet Howard ?
D'une part, il semble bien qu'elle ne puisse plus avoir d'enfants. Ouais. Elle en a eu un de son premier amant et elle élève les deux enfants de Louis-Napoléon qu'il a eu de celle qu'on appelait la belle sabotière au fort du Ham. Donc elle élève ses enfants qui lui seront arrachés de façon très cruelle d'ailleurs par la suite. Et évidemment qu'à partir du moment où il a l'ambition de rétablir la dynastie, il faut qu'il épouse au moins une femme de la haute aristocratie, ce qui sera le cas avec Eugénie.
Oui, alors comment cette femme, Harriet Howard, riche, belle, qui a financé l'accès au pouvoir, on peut le dire, de Louis-Napoléon Bonaparte, comment apprend-elle le mariage de celui-ci?
Alors là, c'est une histoire qui nous fait penser à ce qui peut se passer aujourd'hui, où on apprend les nouvelles terribles par l'AFP. Elle apprend
par
tout simplement...
Par son téléphone portable, oui.
Ou par le téléphone portable, par texto. Là, elle apprend que Louis-Napoléon va se marier. Enfin, Louis-Napoléon, Napoléon III, à ce moment-là. En faisant un voyage à Londres avec le chef de cabinet Mocquard, dont elle était très amie d'ailleurs, et qu'il avait envoyé donc en mission diplomatique à Londres. Elle est au Havre, il y a une tempête... Le bateau donc ne débarque pas tout de suite, elle lit le journal et elle apprend la nouvelle du mariage de cette façon-là.
En lisant le journal.
En lisant le journal.
Elle reverra Napoléon III ou elle sera répudiée d'une certaine façon.
Elle le reverra plusieurs fois, la liaison reprendra même un petit peu après, jusqu'à la rupture finale, parce que Eugénie est extrêmement jalouse et sait qu'il se passe des choses, et donc il sera obligé de rompre totalement.
En tout cas, on voit que le courage masculin n'en a pas changé depuis quelques décennies.
Ça, c'est pas une surprise, mais si j'osais un anachronisme, elle a été, en vivant rue du Cirque, un peu Julie Gayet, et en étant répudiée, un peu Valérie Trier-Weller, finalement, cette
Miss Award. Oui, on pourrait
c'est
en
un énorme anachronisme que moi,
ça.
J'assume.
Oui. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on voit déjà se mettre en place, dans la mesure où elle joue un rôle officiel auprès de Louis-Napoléon, on voit déjà se mettre en place des représentations sur ce que seront plus tard les Premières Dames et sur ce qu'on attend d'elles. Et déjà, ça se met en place à ce moment-là avec Harriet Howard.
Mais attention, les garçons, tout n'est pas permis au Palais de l'Élysée. Le Palais de l'Élysée peut être mortel. On vous raconte le destin funeste du président Félix Faure.
Vous écoutez RTL.
RTL.
Voici donc ce cher Félix Faure qui est mort le 16 février 1899 à l'Élysée. Alors officiellement d'une congestion cérébrale. Mais en réalité, sa mort était beaucoup plus douce puisqu'il a bénéficié d'une gâterie de la part de sa maîtresse Marguerite Stenay.
La curiosité est un vilain défaut.
Clémenceau eut ce mot cruel, il voulait être César, il finit Pompée.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Les histoires érotiques de l'Élysée, c'est ce que l'on vous propose dans la curiosité sur RTL avec l'historienne Joëlle Chevet. On est en partenariat avec le magazine Historia du mois de mars. Joëlle Chevet, on vient d'entendre ce que l'imaginaire a retenu de la mort de Félix Faure. Et peut-être que vous allez nous dire que c'est plus compliqué que ça. On se penche sur le sort de ce président passé effectivement à la postérité pour être mort en galant de compagnie à l'Élysée. On va d'abord poser le décor, si vous voulez bien. Février 1899, il a quel âge ? Félix Faure.
Il a 58 ans, ce qui, pour l'époque, est quand même relativement vénérable comme âge. Enfin, il porte encore beau, on l'appelle le président soleil, il soigne beaucoup sa tenue, c'est quelqu'un qui a le sens de la majesté, de la dignité. Donc toute cette histoire que nous allons raconter cadre mal, en fin de compte, avec l'idée qui se faisait de la présidence de la République. Ouais. Quoi qu'il en soit, c'est un homme infâme.
Ça, c'est sûr. Bon, ça, c'est une première vérité qu'on peut
confirmer.
Alors,
il était en forme ce matin du 16 février 1899.
16 février au matin, Félix Faure.
On va raconter par le menu sa journée.
Est-ce qu'il est fatigué ce jour-là?
16 février au matin, il a les jambes molles quand même.
C'est une mauvaise année.
L'année a été dure avec l'affaire de Fashoda, avec l'affaire Dreyfus. Le jour même, il doit recevoir en particulier le prince de Monaco qui doit lui parler de l'affaire Dreyfus, l'archevêque de Paris. Donc il y a des rendez-vous lourds déjà à assurer pour cette journée. Il a décidé de ne pas monter à cheval comme il le fait tous les matins. Et il appelle donc dans l'après-midi sa maîtresse Marguerite Steinheim, dite Meg, qui est sa favorite, je dirais, par rapport au défilé important de femmes qui viennent à l'Élysée. C'est elle la préférée. Et apparemment, il l'appelle parce qu'il ne se sent pas bien du tout.
Oui, elle va lui remonter le moral.
C'est alors, l'idée. Le moral, je ne sais pas.
Remonter, je ne sais pas non plus.
Remonter, bon. Je ne sais pas non plus, mais ne nous égarons pas.
Franchement, les filles, comme vous y allez.
Étant donné que nous ne savons pas exactement ce qui s'est passé.
Alors, Meg va hériter de cette finesse.
Attendez, je voulais juste qu'on dise dans quel état de santé quand même est Félix Faure. Il souffre du cœur depuis longtemps.
Voilà, il a des
sérieuses quand même un peu.
Soyons sérieux, il a des problèmes cardiaques réels. Il prend aussi des petits adjuvants aphrodisiaques, poudre de cantharide et autres, dit-on, pour être un peu plus fringant, mais c'est surtout quelqu'un qui vit bien, qui fume, qui mange et boit sans trop se priver, donc quelqu'un qui est quand même fragile.
Joël Chevet, Meg a hérité de ce funeste surnom Pompe, je vais pas y arriver. Oui. Pompe funèbre, c'est assez joli. Mais il s'est passé quoi cette nuit-là
très grossier.
C'est très grossier, on est d'accord.
Comme la citation prêtée
à Clémenceau, mais il en avait dit tellement d'autres qu'on ne prête qu'aux riches.
Que s'est-il passé cette nuit-là? Elle est vraiment morte dans ses bras?
Non. Absolument pas. Elle lui a donc rendu visite. Elle disait toujours qu'elle y allait pour l'aider à rédiger ses mémoires. Alors sans doute qu'il a voulu rédiger le chapitre final. En tout cas, il l'appelle. Elle le rejoint dans un des salons, et pas le salon habituel d'ailleurs où il la reçoit. Et là donc, il a apparemment un malaise. Elle appelle à l'aide. Et là, évidemment, les proches du président interviennent, et en particulier Louis Le Gall, qui est très proche du président et qui niera farouchement, évidemment, toute l'affaire. Dès le lendemain, il ne révèle rien à la presse. Et en fait, on en saura beaucoup plus que presque 10 ans plus tard.
Pourquoi ?
C'est ça qui est très curieux, parce que 10 ans plus tard, Meg est accusée du crime, enfin du meurtre, de sa mère et de son mari. Et c'est à ce moment-là qu'on découvre quand même un certain nombre de choses, avec le témoignage de la femme de chambre qui dit qu'en effet elle est revenue sans corset. Et c'est le moment où Louis Le Gall avoue que le corset en question, eh bien, il l'a conservé toute sa vie comme pièce à conviction, ce qui est quand même très drôle. Mais dans les jours qui suivent l'affaire elle-même, évidemment, les journaux font allusion à cette personne inconnue. Alors, on a pensé à plusieurs personnes, en particulier à Cécile Sorel.
Qui était comédienne, c'est ça ?
Oui, qui était comtesse de Ségur aussi. Mmh. Et qui a nié farouchement avoir eu toute liaison avec le président. Et on sait peu à peu, en effet, qu'il s'agit de Madame Steinheil.
De Meg. Certaines rumeurs, alors je ne sais pas si c'est juste après ou au moment du procès 10 ans plus tard, affirme que le président Félix Faure tenait les cheveux de Meg et qu'il a fallu couper les cheveux.
Oui, alors là, c'est un diplomate, Maurice Paléologue, qui a raconté ça dans ses mémoires et qui dit qu'en effet, il y a eu des scènes nerveuses et terribles, et que donc le président s'est accroché à ses cheveux et qu'il a fallu. Il semble que tout ça soit tout à fait. Soit une affabulation, qu'il tenait de Casimir Perrier, qu'il tenait d'un valet de chambre, qu'il tenait de la domesticité de l'Élysée, qui n'avait rien vu. Donc, voyez, en tout cas, il meurt.
Ça, c'est sûr. Sans doute après une étreinte dont on ne connaît pas les détails.
Mais certainement étreinte il y a eu. En tout cas, il est transporté dans son bureau, qui est l'actuelle bibliothèque dont nous avons parlé tout à l'heure. Et il meurra plusieurs heures plus tard, là pour le coup dans les bras de sa femme, Berthe. Et le verdict sera certainement d'une hémorragie cérébrale.
Cette bibliothèque, pour ceux qui nous rejoignent, qui a servi quand même à la photo officielle de 4 de nos présidents de la 5e République.
Dont De Gaulle, oui. Qui connaissait l'histoire, mais qui n'a pas craint.
De Gaulle, Pompidou, Mitterrand et Sarkozy ont choisi ce lieu pour faire faire leur photo officielle.
Dans cette soirée, il y a aussi un moment cocasse, Joël Chevet. Que se passe-t-il quand le curé censé administrer les derniers sacrements arrive?
Alors, c'est peut-être la seule anecdote qui soit à peu près avérée. Ah. Ce fameux curé Renaud, qu'on a trouvé, parce qu'on n'arrivait pas à trouver de prêtre, donc on a fini par trouver celui-là. On l'a fait monter et il a demandé à l'homme de garde, en montant les escaliers de l'Élysée, si le président avait toujours sa connaissance. Et l'homme en question a répondu non, elle est sortie par la porte de derrière. Voilà, c'est l'anecdote, mais il semble que ce soit avéré comme anecdote.
C'est très joli.
Joël Chevet, pour conclure, finalement, on a démarré cette séquence en disant que certains souhaitaient que le pouvoir déménage de l'Élysée. Il n'est pas maudit, ce palais, finalement?
Non, parce que je dirais
pour
que
les amours présidentielles,
par rapport à d'autres grandes demeures aristocratiques et surtout palais princiers ou impériaux, il s'y est passé beaucoup moins de choses qu'ailleurs, si on réalise bien.
La période la plus torride, c'était quand? C'était le Directoire, finalement?
Oui, je pense que c'est le Directoire où ça a été un lieu de plaisir et où surtout les jardins, parce que les Champs-Élysées étaient à l'époque un lieu de prostitution, donc il se passait beaucoup de choses dans les jardins quand les feux d'artifice s'éteignaient. Là, incontestablement, avec les Murat, incontestablement aussi, la plupart des présidents allaient ailleurs. Vous imaginez bien qu'on a parlé parfois du président Chirac. Il est évident que Bernadette ne laissait rentrer personne à l'Élysée qui soit suspect. Donc, je crois que c'est surtout l'aspect hors de la monarchie qui peut choquer dans la façon de continuer à ce que nos présidents vivent à l'Élysée. Et puis ensuite, c'est pas un lieu pratique du tout.
Et ben voilà, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup, Joël Chevet. On recommande la lecture de cette Historia Magazine, nouvelle formule, et de vos articles publiés en partenariat avec RTL.
Vous écoutez RTL.